L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours Jonathan Junior Mambou pour nous accompagner. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui nous suivez présentement.
Avant d'aller plus loin, je voudrais, Jonathan, t'inviter à dédier, à prier, à dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur afin que Dieu nous fasse du bien encore dans cette émission. Je t'en prie.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ma prière, c'est que, au travers de ce message, qu'il y ait aussi de tes brebis qui vont pencher leur oreille pour écouter ta voix. Car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour sauver, pour apporter la vie, pour apporter la délivrance, pour diriger, pour conduire, pour enseigner. Bénis ces instants et que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. La parabole du Samaritain. Nous étions en train de, si je puis dire, d'introduire une introduction par rapport à Adam et Ève. Nous avons dit dans Genèse 2, Genèse 3, que Satan a pour objectif de nous déconnecter de Dieu pour nous détruire, pour nous faire du mal. Tant que Adam et Ève restez dans la présence de Dieu, marchez dans les commandements de Dieu et ne transgressez pas ce seul commandement qui était « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie », l'arbre, pardon, de la connaissance du bien et du mal. C'était l'image de qu'ils étaient à Jérusalem. Mais Satan les a attirés hors de Jérusalem pour les détruire. Et Satan fait passer Dieu pour un menteur, tu vois. Le truc avec le diable par rapport même aux enfants de Dieu, c'est que Satan veut toujours nous faire comprendre que Dieu nous a déçus, que Dieu nous a menti et que nous pouvons avoir plus que ce que Dieu a promis. Il dit dans Genèse 3, verset 4, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Jonathan, cet homme et cette femme étaient déjà comme des dieux sur ce monde. Dieu est le Dieu vivant, mais en fait, il voulait que Adam et Ève soient les gestionnaires de ce monde. C'est eux qui devaient gérer ce monde. Tu vois, c'est comme l'ambassadeur d'un pays. Il représente son pays. Il n'est pas le pays, mais il représente le pays. Il représente son président, il représente les institutions, il représente les habitants de son pays. Quand vous le touchez, quand vous lui faites du mal, c'est vrai que physiquement c'est à lui que vous avez fait du mal, mais sa nation, son pays, son président, son premier ministre, son parlement, son sénat, sa population va réagir parce qu'en fait, indirectement, c'est eux qu'on a touchés. Et c'est ça que devait être... Ah, c'est ce que nous devions être si Adam et Ève n'avaient pas abandonné. Satan savait. Et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, Satan était là quand Dieu était en train de créer l'homme. Satan a vu la faiblesse de l'homme. Il s'est dit, celui-là, le seul moyen de le détruire, il faut simplement le déconnecter de la source. Il faut simplement le déconnecter de Jésus-Christ. Il faut simplement le déconnecter de Dieu. Et puis c'est terminé. C'est comme aussi nous avons lu dans l'histoire de Jean 15. La branche doit être attachée au tronc. Si tu coupes la branche peut continuer même à donner un semblant de vie, peut-être même à produire des fruits. Mais il y aura un jour, puisqu'il n'est plus connecté à la source, il y aura un jour, vous allez voir, la branche va commencer à changer de couleur, les feuilles vont commencer à refléter la mort,
à sécher.
Et des fois, même quand tu goûtes au fruit,
oui, ça perd le goût.
Ça perd
la
goût,
saveur. Et
ça
tout.
Perd cette saveur. Parce qu'en fait, le processus complet le processus s'est arrêté, la vie s'est arrêtée.
C'est déconnecté de la racine. C'est très important qu'on dise ces choses par rapport à Adam, parce que, en fait, dans le jardin d'Éden, en tout cas, on n'a pas lu qu'il y a eu le terrorisme là-bas. On n'a pas lu qu'il y a eu des tremblements de terre au temps d'Éden, à l'époque, ou qu'il y a eu des tornades, comme on voit aux États-Unis, où il y a eu des tsunamis, des cyclones. Non. Si Adam connaissait que simplement le fait de désobéir allait créer toutes ces choses.
Tu sais, je suis en train de penser à quelque chose qui est arrivé en Australie. Je crois que c'était au nord de l'Australie, il y avait de très fortes pluies. Au sud de l'Australie, il y avait des sécheresses et il y a eu des pyromanes qui ont allumé des feux. Il y avait des kilomètres enflammés. Le même pays. Au nord, il y a des inondations. Au sud, il y a la sécheresse et le feu.
Vraiment, Adam, s'il avait su toutes ces choses, que les lions allaient commencer à être dangereux pour les hommes, que le petit scorpion allait être dangereux pour laisser le venin dans le corps humain. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à prendre un tigre comme un ami ou un serpent. En tout cas, il n'allait pas prendre ces décisions. Mais tout simplement pourquoi? Parce que le fruit que Ève avait vu était, selon le verset 6 du chapitre 3 de Genèse, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
C'est ça le péché. Comment est-ce qu'un homme qui vit dans les meilleures conditions, il est l'ami de Dieu. Il voit Dieu. Il a tout. Mais on lui dit seulement, tu vois cet arbre? N'y touche pas. Je ne sais pas si Adam a eu la présence d'esprit de poser la question à Dieu. Est-ce que si je mange de cet arbre, j'aurai quelque chose de plus que ce que j'ai aujourd'hui? C'est ça que Satan leur a proposé. Il leur a dit, si vous mangez de cet arbre, vous aurez quelque chose de plus que vous avez aujourd'hui. Mais quelle est cette chose qui devait apporter un plus dans la vie d'Adam et Ève? C'était simplement le malheur. C'était simplement la nudité, la maladie, les souffrances, les guerres, les tremblements de terre, les cataclysmes, les meurtres, la débauche, l'adultère, l'ivrognerie, l'idolâtrie, le mensonge. Voilà ce que Satan a apporté de plus à ce que l'homme avait déjà dans le jardin d'Éden. Et c'est la même chose pour ce monsieur qui a quitté Jérusalem pour Jéricho. Il croyait qu'en allant à Jéricho, il aurait un plus. Voilà pourquoi Satan est toujours un menteur. Tout ce qu'il dit, tu sais, j'ai vu un film une fois où on faisait croire que Satan pouvait dire la vérité pour tromper. Non, Satan ne peut pas dire la vérité pour tromper. Satan ment. Il utilise la ruse.
Mais Jésus a dit, en lui, il n'y a point de vérité.
Et tu sais, il y a une autre version qui dit, il est à l'aise quand il ment. Il vit dans le mensonge. Il ne peut pas dire autre chose. C'est comme ça qu'il a attiré cet homme de Jéricho, de Jérusalem, pour l'emmener à Jéricho, parce qu'il savait qu'en chemin, il allait le détruire. Et d'ailleurs, je suis même convaincu, comme on a dit la dernière fois, ces brigands-là, c'était certainement des gens aussi qui venaient de Jérusalem. Déçus, ils ont commencé à faire du mal à d'autres personnes. Voilà tout ce qu'apporte Jéricho, l'amertume, la déception. Mon frère, ma sœur, le péché ne paye jamais.
C'est très important cette réalité qu'ont connue Adam et Ève, qui est aussi illustré par cette descente de cet homme de Jérusalem vers Jéricho. Parce qu'en fait, la femme, en fait, s'il a pris l'arbre, c'est parce qu'il voulait juste satisfaire un désir, un besoin. Parce qu'en fait, il n'y avait pas que ça comme arbre. Il y avait des fruits. En tout cas, moi, j'ai mangé des fruits depuis que je suis né. Mais je dois reconnaître que je n'ai pas mangé tous les fruits de la terre. Il y a encore des fruits que je dois manger. Alors, est-ce qu'Ève avait mangé tous les fruits jusqu'à aller prendre simplement le fruit dans lequel Dieu avait défendu? Ça, c'est un exemple qui montre clairement que l'infidélité qui est entrée dans le jardin d'Éden était aussi entrée parce que Ève et Adam, si je peux le dire, ils ont voulu juste satisfaire
un désir.
Un désir.
Pas un besoin, mais un désir.
Voilà. la satisfaction du désir du corps, la satisfaction charnelle, a entraîné toute l'humanité à des pires conséquences. Et ça, c'est une leçon très importante. Et Dieu nous avertit, ça, c'est un exemple très important. Parce qu'aujourd'hui aussi, on le voit, par exemple, dans des milieux, dans certains milieux, pauvres, chez certaines jeunes femmes, qui se laissent, par exemple, livrer à la sexualité à cause juste de la faim. Elle n'a pas mangé, elle trouve quelqu'un qui peut lui acheter juste une boîte de sardines. Bon, c'est un peu humiliant de dire ça, mais c'est vrai, ça se fait. À cause des sommes.
D'une paire de chaussures.
Oui.
D'un téléphone.
Oui. J'accepte du n'importe quoi. Juste pour vivre. Pour vivre, pour satisfaire. Ce qui n'est pas une bonne chose. On est dans Jacques, chapitre 1er, hein, versets 13 à 14. Jacques dit ceci, je commence au verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Tu sais, moi, quand je lis des versets pareils, je me mets moi-même d'abord. Donc, c'est pour dire quoi ? Tout le monde sans exception, pasteur ou pas pasteur, prophète ou pas prophète, apôtre ou pas apôtre,
pape,
président de la République ou pas, gouverneur ou pas,
roi
général ou
pas,
roi ou pas, empereur, au Japon il y a un empereur,
empereur.
Ou pas. Donc tous on a des convoitises. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Ce sont deux verbes qui expliquent deux choses. D'abord, il t'attire, et puis il t'amorce, il te manipule maintenant, il te guide.
Il te guide.
Amorcé par sa propre convoitise. Donc, un peu pour dire que déjà à ce niveau, quand tu es attiré, c'est impossible d'empêcher cette attraction-là. Mais au moins, on peut ne pas obéir à cette attraction.
Tout à fait.
Mais l'attraction peut venir.
Elle viendra toujours.
Oui, on ne peut pas empêcher ça, c'est dans le corps. Tu es là, tu vois une jeune femme. Tu sens vraiment que ça brûle.
Tu la regardes, tu te dis, oh, elle est même plus belle que ma femme à la maison, elle est plus gentille.
Oui.
C'est normal, mais il faut arrêter. Il faut dire, stop,
tu es
pas plus loin.
Tu es dans ton véhicule, tu passes là où il y a des prostituées, tu brûles, mais n'arrête pas le véhicule, avance. Mais ça va pas empêcher que tu brûles.
Tu as des besoins d'argent, tu ouvres un tiroir ou bien on te demande de faire un chèque. Tu es attiré, tu as envie de voler, mais tu te dis, non. Je ne suis plus de cette race-là. Je ne suis plus de ce genre-là.
Et la suite. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire, même la convoitise, elle conçoit. En fait, c'est elle qui est en nous, nous combat. J'aime bien Paul et Jacques. Hein? Ce sont des gens aussi qui ont parlé des réalités de la chair.
Heureusement que la Bible dit la vérité.
Non, en tout cas.
Elle ne cache rien.
Ouais.
Voilà pourquoi il faut lire la Bible, mes frères, mes sœurs.
Regardez ce que Jacques dit, par exemple. Je suis toujours dans Jacques. Je vais retourner dans le texte. Jacques 4. Il dit ceci. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Regardez le verset 9. Sentez votre misère. Mais c'est quelle misère? C'est cette misère de cette convoitise qui est en nous. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas se glorifier. Quand il réalise que je suis chrétien, mais je sens encore ces choses. Je suis chrétien, mais je gémis encore à cause de cette maladie. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Et que votre rire se change en deuil et que votre joie et votre joie en tristesse. Paul, Jacques veut tout simplement dire qu'en réalisant notre nature, demandons toujours l'aide de Dieu. Disons toujours à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Même si tu es un grand prédicateur, un homme par qui Dieu fait des grands miracles, mais il faut à un moment de donner, tomber aux pieds du Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Même si les hommes te considèrent comme étant le trois fois saint, le très saint X, tu as besoin de l'aide de Dieu.
C'est important. Parce que je vois un homme comme Élie. Il a prié, le feu est descendu. Mais après, quand Jézabel l'a poursuivi,
il a fui.
Il a été honnête devant Dieu même pour dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tout à fait. Voilà un homme comme ça. Mais si lui, il a dit ça, moi, je n'ai pas fait tomber le feu du ciel. Hein? Qu'est-ce que je peux dire? En fait, il a été honnête que je suis un homme. Je ne suis pas meilleur que Moïse, qui n'a pas fait comme moi, c'est vrai, mais je ne suis pas meilleur que lui. Je ne suis pas meilleur que tous mes prédécesseurs, tous les autres, les Josué, je ne suis pas meilleur que eux. En tout cas, il faut choisir un autre. Sentons notre misère. Et Paul qui dit, qui reconnaît que je sens en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire, dans mon intelligence, je sais bien que ce n'est pas ça ce que je devrais faire. Mais mon corps me dit, fais ça. Jésus a raison quand il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Écoute ce qui est dit dans Galates. Dans Galates 5, je crois, si je ne me trompe pas. Galates 5, oui. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais alors, on doit faire la volonté de qui? De l'esprit. Parce que on peut pas marcher à la fois en étant spirituel et charnel en même temps. C'est pas possible. Parce que la chair va me pousser, c'est vrai, la chair va dire il faut manger, ok, je mange. Il faut boire, oui, il faut boire. Il faut s'habiller, oui, il faut s'habiller. Mais la chair va vouloir aller un peu plus loin. Il dit tu veux manger, ok, il faut manger telle nourriture. Oh, pour manger telle nourriture, tu regardes ta poche, t'as pas assez d'argent. Alors la chair commence à te proposer, vol, ment, tue, prostitue-toi, invente des histoires où, je sais pas, détourne des fonds parce que tu dois manger. Celui qui a pour Dieu le ventre, va aller en enfer. Celui qui a pour Dieu le ventre, va détruire la vie des autres. Celui qui a pour Dieu le ventre, va se détruire lui-même. Mais celui qui a pour Dieu l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, celui qui marche selon la volonté de Christ, va toujours manger, va toujours s'habiller, mais il y aura des limites. Je vais acheter ça, mais c'est en fonction de ce que j'ai, et pas plus. Paul a dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai pas d'argent, je ne me tracasse pas pour acheter des choses dont je sais que j'ai pas d'argent. Il veut même dire que je ne cherche pas à garder un certain standing de vie. Non, je vis selon les moyens que je dispose. Donc si aujourd'hui, j'ai 50 000 dollars, 50 000 euros, bon, je vais vivre avec en fonction de mes 50 000 euros. Si demain matin, je me réveille, je n'ai plus 50 000 euros, mais je n'ai que des revenus de 500 dollars, 500 euros, ben, je vais vivre avec ce revenu de 500 euros, 500 dollars. Je ne vais pas me tacasser la tête, non, parce que je suis le grand évangéliste, le grand apôtre. Hein, tout le monde me connaît, je suis toujours habillé en tel type de vêtements. Donc si demain, il n'y a plus d'entrée dans le ministère, je vais commencer à inventer des prophéties.
Pour avoir l'argent.
Je vais commencer à inventer des guérisons.
Pour avoir l'argent.
Je vais commencer à inventer des messages. Mm-hmm. Donc la sœur entre Dieu me dit, non, Dieu me montre que tu es possédé, tu as besoin de délivrance. Bon, mais pour que je puisse prier pour toi. J'ai vu ça, Jonathan,
oui,
j'ai vu
ça. Pour que ça je puisse existe. Prier pour j'ai toi. J'ai vécu ça aussi.
Donne-moi 500 dollars, donne-moi 600 euros, donne-moi... Non! Non, on n'invente rien, marchons selon l'esprit. Si Dieu permet aujourd'hui que nous ayons beaucoup, gloire à Dieu. Si demain Dieu ne permet pas que nous ayons beaucoup, gloire à Dieu. Nous restons quand même des instruments entre ses mains.
Et puis nous amassons dans l'éternité. C'est ça aussi et beaucoup de gens oublient. Quand tu sers Dieu, même si tu ne l'as pas présentement, mais dans l'éternité, tu vas retrouver des tas et des tas de richesses.
Nous sommes à l'école, nous sommes dans une école, nous sommes en train d'apprendre. En fait, notre vie de tous les jours est un investissement.
Oui,
Jésus, est un investissement.
Jésus savait ce qu'il disait quand il disait « Ne vous amassez pas des biens de la terre où la teigne et la rouille détruisent. » Je veux lire ça, Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Donc Jésus veut dire que nos richesses terrestres peuvent être détruites par la teigne, par des voleurs, la rouille peut détruire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Maintenant dites-moi, vous êtes sur la terre, vous allez l'amasser au ciel comment? Mais lorsque nous pratiquons nos œuvres sur la terre, nous faisons ce qui est bien sur terre. Mais on est en train d'amasser. C'est là qu'on va se retrouver. Quand est-ce que moi j'ai bâti cette histoire? Quand tu étais sur la terre.
Chaque acte de bien que tu faisais est une construction pour ta maison au ciel.
Oui.
C'est un investissement pour toi au ciel.
Oui. Alors, des fois, comme on ne voit pas le ciel, on s'est dit que, bon, comment on peut commencer à nous amadouer, ou bien nous ment, pour certaines personnes. On nous ment, on nous dit des choses, on ne sait pas pour le ciel, mais on est encore sur la terre. Mais je n'ai pas dit qu'on va rester affamé pendant un mois. Je n'ai pas dit ça. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait, en tout cas, quand je lis la vie de Jésus, il faisait allusion toujours à l'éternité. Quand il est né, déjà les anges du ciel ont chanté. Ça montrait toujours que lui, c'est l'homme du ciel. Quand il a commencé son ministère, il disait toujours, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Il parle du royaume des cieux.
Tout à fait.
Il a été tué, on l'a crucifié. Devant, avant d'abord qu'il ne soit crucifié, devant les pharisiens, il dit « Mon royaume ». Il a dit d'ailleurs ça à Pilate. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il continue toujours à parler du ciel. Et quand il est mort, il est ressuscité, toujours le royaume des dieux, les anges parlent toujours du royaume des dieux.
Il a de la même manière qu'il est parti, de la même manière il va revenir.
Oui. Jésus a dit clairement, ça, là c'est dans Actes 1:6, il dit, « Alors les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Tu vois, toujours le royaume, toujours. Hein, dans le verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, quand il est ressuscité, il leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. » Je me dis, mais toi tu es ressuscité, tu parlais toujours du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de ce monde. Il était du ciel. Il ne pouvait que parler du ciel. Parce qu'il sait que le ciel a une portée grande par rapport à ce
l'éternité.
Oui. C'est pour ça que cette vie est une préparation.
Ce que nous vivons sur cette terre n'est rien. Parce que est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui vit 130 ans? Comparer 130 ans à des milliards de centaines de milliards d'années.
Voilà.
C'est rien.
Oui. Donc cette vie sur Terre, c'est une préparation.
C'est rien.
Investissons par rapport à l'éternité. Parce que si on ne le fait pas, beaucoup vont se dire... Parce qu'en fait, même dans le royaume de Dieu, il y aura des grands et des petits. On va voir les autres.
Des grands, des moyens et des petits.
Oui. Le prisonnier à la croix. Il ne sera pas récompensé de la même manière que Paul.
Tout à fait.
Paul, il a souffert pour l'évangile. Le prisonnier à la croix va voir la gloire de Paul. Mais est-ce que nous ne pouvons pas accepter la souffrance pour que nous soyons aussi glorifiés devant les anges? Jésus, il a dit. Jésus dit, il va mettre à sa droite les brebis, à sa gauche les boucs. Il dira, venez à moi parce que j'étais nu, vous m'avez fait ceci.
J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez...
Ils lui diront, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Il dit, toutes les fois que vous avez fait ça.
Un de mes petits.
C'est à moi que vous l'avez fait. Donc, en fait, tout ce que nous faisons sur terre a un impact dans l'éternité.
A une portée dans l'éternité.
Oui. Mais amassez-vous des trésors dans la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent des robes. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça encore le problème.
En parlant du trésor,
où est ton trésor?
Où
c'est
est
sur,
ton trésor?
Sur la terre ou c'est au ciel?
Et c'est là où Satan a eu Adam
oui,
et Ève.
C'est vraiment là.
Il leur a dit, en fait c'est une manière de leur dire, regardez, votre trésor est ici. Parce que le trésor c'est ce qui a le plus important.
Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, je me pose cette question. Est-ce que Ève et Adam avaient mangé tous les fruits du monde?
Vraiment.
Pour se dire, bon, comme on a déjà tout mangé, on a besoin de celui-ci. Je veux celui-ci. Mais la question qu'on doit se poser, si je ne mange pas ce fruit, est-ce que je vais mourir? Et puis même si je meurs, est-ce que si je mange ce fruit, est-ce que ce fruit va me permettre de vivre éternellement? Non. J'ai besoin d'une paire de chaussures, j'ai besoin de payer le Minerval, j'ai besoin d'étudier. Ok, d'accord, je me prostitue, je fais tout ce qu'il faut, mais est-ce que ce que j'aurai obtenu par le vol, par le mensonge, par le péché, est-ce que ça va me permettre d'être à l'abri pour l'éternité d'un besoin? Non. Alors, vaut mieux. Moi, je crois que c'est mieux qu'un désir te tue plutôt que d'obéir à un désir alors que tu sais que ce désir t'éloigne de la présence de Dieu, t'éloigne de Jérusalem.
L'autre précision que je voulais donner alors qu'on évolue, c'est que le désir charnel, ce n'est pas seulement par rapport au péché, mais je vois aussi la paraisse, par exemple, la négligence, parce que c'est comme on a parlé du péché. Un chrétien qui ne prie pas, quand tu es au lit, ah, je dors. Ah, quand tu es, tu ne lis même pas la Bible. Donc, cette paresse-là, c'est la chair. Parce qu'en fait, ton corps, il trouve que c'est embêtant de lire, c'est embêtant de prier.
J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Oui. J'ai pas le temps de prier. J'ai pas le temps de lire.
Et moi, j'ai constaté à la télé, on a toujours le temps, on a la force. Mais pour prier ou pour lire la Bible, la chair dit non.
Non.
Mais non, c'est à toi de choisir.
Pour regarder les télés,
les théâtres, les films.
On a le temps. Mais quand il faut lire sa Bible pendant 15-20 minutes, non, je suis fatigué. J'ai passé une dure journée. Mon frère, ma sœur, Dieu vous aime. Si Dieu permet que vous écoutiez cette émission, c'est pas dans le but de vous faire du mal, c'est dans le but de vous réveiller.
Amen.
Adam et Ève ont été distraits par une parole qui n'est pas venue de Dieu. Adam et Ève ont été attirés en dehors de Jérusalem par des paroles qui ne venaient pas de Dieu.
Amen.
Adam et Ève ont été attirés en dehors du jardin d'Éden. Parce qu'après, ils ont quitté. Dieu était obligé de les mettre à la porte. Pourquoi? Parce que ils ont préféré avoir plus confiance à une créature que plutôt à un créateur. Mon frère, ma sœur, Dieu vous appelle à revenir aujourd'hui dans le jardin d'Éden, à revenir à Jérusalem, de revenir à Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu a toujours les bras ouverts et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce que Jésus-Christ vous dit aujourd'hui. Au-delà des deux personnes que nous sommes, Jonathan et moi, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous invite à la repentance, car le royaume des cieux est proche. Si c'est cela votre désir, votre prière, baissez simplement la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message, j'ai entendu le cri du ciel qui est venu jusqu'à moi. Pardonne ma rébellion, pardonne mon péché, pardonne ma transgression, pardonne ma distraction, pardonne ma paresse spirituelle. Je prends l'engagement aujourd'hui de me réveiller. Je prends l'engagement aujourd'hui d'être fort dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la marche chrétienne. Je refuse toute forme de distraction qui vient du monde. Je refuse les paroles de Satan. Je refuse les mensonges du diable. Je ne veux que me concentrer que sur Jésus-Christ, tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est « Venez à Jésus ». Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous assiste, vous bénisse.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.